RFI, bonsoir. Il est 17h en temps universel, 19h à Paris, 20h à Beyrouth et Tel Aviv.
Nicolas Brousse.
Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a été tué par une frappe israélienne. Sa mort suscite de nombreuses réactions, notamment de l'Iran, principal soutien du mouvement qui promet vengeance. Mais le pays peut-il vraiment mettre sa menace à exécution? Nous poserons la question à un expert. Après être allé prendre la température dans un Beyrouth en ébullition, nous rejoindrons également notre correspondant aux États-Unis, allié d'Israël. Joe Biden est en train de réagir. Dans ce journal également, la journée mondiale pour un avortement sans risque. Journée de sensibilisation, alors que près d'une femme sur deux à travers le monde n'a pas un accès libre et libéralisé à une interruption volontaire de grossesse. Au Liban, la mort d'Hassan Nasrallah est donc officielle, d'abord annoncée par l'armée israélienne, puis confirmée par le Hezbollah. Son chef a bien été tué dans une série de bombardements sur la ville de Beyrouth. Des frappes massives dans le quartier où se trouvait, selon Israël, le QG du mouvement chiite libanais. Abla Junaidi, vous êtes l'envoyé spécial des RFI en direct de Beyrouth. Comment réagissent les Libanais? Quelle est l'atmosphère dans la capitale?
Alors la ville est en état de choc, hein, de sidération après cette confirmation de la mort de Hassan Nasrallah. L'ambiance dans les rues a changé du tout au tout. Les commerces, les restaurants ont fermé leurs rideaux un peu partout. Il y a beaucoup moins de voitures qui circulent, pardon, comme si la ville s'était vidée de ses habitants. On croise souvent des voitures avec des familles entassées, avec leurs effets personnels qui fuient la région. Le quartier touristique d'Achrafieh est plongé dans un silence inhabituel. Et on sent une certaine tension aussi, avec un déploiement armé plus important que ces derniers jours. On a vu des hommes de l'armée et des services de renseignement positionnés au pied de la Maison Jaune, un bâtiment qui symbolise l'ancienne ligne de démarcation entre quartiers chrétiens et musulmans pendant la guerre civile. On est là tout près des ambassades aussi. Au loin, on a pu entendre aussi des rafales d'armes automatiques sans qu'on puisse déterminer d'où elles venaient. Il y a la peur d'un embrasement ici, d'autant plus qu'Israël a juré d'intensifier ses frappes et de tuer aussi le successeur qui serait désigné à Hassan Nasrallah.
Abla Junaidi en direct de Beyrouth grâce aux moyens techniques de Jadel Khoury, envoyé spécial des RFI. Les réactions sont très nombreuses alors qu'un haut gradé des gardiens de la Révolution est mort lui aussi dans la frappe qui a tué Hassan Nasrallah, selon l'agence officielle iranienne. Le guide suprême iranien soutien du Hezbollah dénonce une vision politique israélienne à courte vue et stupide. Selon les mots de l'ayatollah Khamenei, la plus haute autorité iranienne qui a été transférée dans un lieu sécurisé à l'intérieur du pays avec des mesures de sécurité renforcées. Le vice-président iranien lui assure que la mort de Nasrallah entraînera la destruction d'Israël. Les propos sont forts, mais l'Iran, jusque-là principal soutien du mouvement, donc dans la région, peut-il, veut-il vraiment passer de la parole aux actes? Écoutez l'analyse d'Adel Bakawan, chercheur associé à l'IFRI, spécialiste du Moyen-Orient.
Celui qui détient la clé de l'orientation, la grande orientation de cette conflictualité n'est pas le Hezbollah, n'est pas les Houthis, n'est pas les milices irakiennes ou n'est même pas les milices syriennes. Celui qui dépose la clé, c'est la République islamique d'Iran. Or, aujourd'hui, on sait très bien la grande priorité des ayatollahs à Téhéran, c'est d'abord la survie du régime et ensuite la protection des installations nucléaires. Et enfin, c'est le sauvetage de l'économie iranienne qui est à terre. Or, un embrasement régional dans lequel l'Iran sera engagé, c'est probablement, je dis bien probablement, la fin de ces trois priorités. Je suis totalement convaincu que la République islamique de l'Iran, pour ces trois priorités que j'ai citées, est totalement prête à sacrifier un par un tous ces groupes, toutes ces organisations miliciennes, à condition que les intérêts suprêmes de la République islamique d'Iran seront protégés.
Adel Bakawan, invité des RFI Midi dans l'édition spéciale de Charlotte Desrouin. Le Premier ministre français Michel Barnier qualifie la situation au Liban d'extrêmement grave et se dit préoccupé pour la sécurité des ressortissants français sur place. De fait, ce conflit a conduit déjà plus de 50 000 personnes à fuir le Liban pour la Syrie, selon l'ONU. Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël. Israël, où les rassemblements de plus d'un millier de personnes sont maintenant interdits pour le centre du pays. Tel Aviv est concerné, là où depuis des mois des manifestations anti-Netanyahou ont lieu chaque samedi soir. Israël, dont le principal allié est américain, et justement aux États-Unis, on vient seulement de réagir. David Thompson, vous êtes en direct, réaction à l'instant de Joe Biden. David Thompson.
Oui, première réaction officielle de la Maison Blanche. Dans un communiqué, Joe Biden salue la mort d'Hassan Nasrallah. Cet homme dirigeait un groupe terroriste qui est responsable de la mort de centaines d'Américains depuis 4 décennies de règne de terreur, écrit le président américain, qui qualifie l'assassinat du chef du Hezbollah de mesure de justice. Dans le même communiqué, Joe Biden appelle à la désescalade par tous les moyens diplomatiques possibles. Mercredi, le président américain croyait être parvenu à négocier une trêve, mais ses efforts ont été douchés dès le lendemain par Benjamin Netanyahou. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis un mois. Ils n'ont plus de contact direct depuis août. Seul le secrétaire à la défense américain et son homologue israélien se sont parlé à 2 reprises depuis la frappe d'hier. Lloyd Austin assure d'ailleurs que les États-Unis n'ont pas été informés de ce bombardement auquel le premier ministre israélien a pourtant donné son feu vert depuis New York. Et du côté des deux candidats à la présidentielle américaine, pour le moment, silence radio. À un mois de l'élection, toute prise de position sur le sujet peut potentiellement avoir un impact négatif tant pour Kamala Harris que pour Donald Trump.
David Thompson, correspondant des RFI en direct de Miami, édition spéciale des RFI Soir dans une heure maintenant. Une nouvelle tentative d'immigration illégale tourne au drame au large de l'archipel espagnol des Canaries. Au moins 9 morts la nuit dernière, et au moins car 48 passagers de la pirogue sont toujours recherchés sur un total de 84. 27 ont déjà pu être secourus avec difficulté en pleine nuit et avec de fortes rafales de vent. L'immigration, l'un des grands thèmes qui vont peser lors du vote pour les législatives demain dimanche en Autriche. L'extrême droite est favorite, créditée de 27% des intentions de vote, juste devant les conservateurs et les sociaux-démocrates. Mais plusieurs petits partis espèrent aussi faire leur entrée au Parlement. C'est le cas du Parti de la Bière, lancé en 2015 par un chanteur rock, presque comme une blague. Il se veut aujourd'hui une réelle alternative aux partis traditionnels à destination des jeunes. Reportage de notre correspondante Isorias.
À Vels, en Haute-Autriche, Marco Pogo, de son vrai nom Dominique Vlasny, arrive sur scène face à une trentaine de personnes. Ce chanteur rock de 37 ans ne vient pas jouer l'un de ses tubes, mais présenter le programme de son parti, le Parti de la Bière.
Nous voulons créer un ministère de l'avenir qui soit indépendant des partis politiques et développe des ambitions avec les jeunes afin de savoir à quoi ressemblera l'Autriche en 2050.
Avec des idées situées à gauche qui sont parfois davantage des slogans que des propositions fouillées, le Bierpartei cherche à convaincre les jeunes. Dans l'Assemblée, Moritz, 26 ans, est conquis.
Ce que je trouve fascinant, c'est cette idée de revenir à la base pour prendre des décisions vraiment démocratiques où la meilleure idée l'emporte. Les partis déjà bien établis ont perdu cela. Le Parti de la Bière m'a donné envie de prendre part au processus politique et pas seulement d'aller voter dimanche.
En Autriche, on vote dès 16 ans à toutes les élections, mais cette mesure n'a pas fait baisser l'abstention des jeunes de manière significative. Le problème est structurel, selon la politologue Julia Partey-Müller.
Les partis souffrent d'une diminution du nombre de leurs membres et d'un vieillissement. Or, nous savons grâce à nos recherches que les jeunes se sentent mieux représentés par des personnes elles-mêmes jeunes. Dans les petits partis, comme le Parti de la Bière, les candidats sont plus jeunes et ont donc une image de parti qui soutient les jeunes.
Le Parti de la Bière réussira-t-il son pari ? Les sondages le donnent actuellement entre 3 et 4% des intentions de vote, tout proche donc des 4% nécessaires pour pouvoir entrer au Parlement. Isorias, Vienne, RFI.
Aux États-Unis, il s'appelle Hélène et ses ouragans ravagent le sud du pays. Au moins 44 morts, de la Floride à la Caroline du Nord, 4 millions d'habitants encore sans électricité après des inondations impressionnantes, qualifiées même d'historiques et catastrophiques par le Centre américain des ouragans. Ce 28 septembre est journée mondiale du droit à l'interruption volontaire de grossesse, journée nécessaire puisque 40% des femmes à travers le monde vivent dans un pays qui restreint, voire interdit leur droit à l'avortement. La France, au contraire, est le premier pays à l'avoir inscrit dans la Constitution. Et pourtant, plusieurs manifestations ont eu lieu dans les grandes villes aujourd'hui pour défendre ce droit vital de choisir, comme on pouvait le lire sur certaines pancartes. Sarah Durocher est la présidente du planning familial.
Les principaux problèmes, c'est l'information. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, qu'on a des gros mouvements anti-choix, anti-droits qui attaquent aussi les antennes du planning familial et qui font parfois des campagnes. Et donc, du coup, il y a un vrai problème sur l'information. Nous, on voudrait une campagne nationale sur l'avortement, vraiment pour informer les personnes et pour lutter contre la désinformation. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de campagne ni sur l'avortement ni sur la contraception. Donc ça serait bien de faire taire certains mouvements anti-choix qui sont en train de remonter. La deuxième chose, c'est qu'il y a des fermetures de services de proximité qui font que sur certains territoires, les femmes ne peuvent pas avorter, n'ont pas le choix de la méthode et parfois sont obligées de se déplacer dans un autre département. On a besoin de réouvrir des services d'IVG dans les hôpitaux qui ferment et qui ferment et qui ferment. Et puis, il y a tout le problème autour de la culpabilisation des femmes, où on a encore des progrès à faire sur le fait qu'aujourd'hui, une femme ne peut pas dire publiquement qu'elle a avorté et qu'il y a quelque chose de culturel à changer autour de ça.
Sarah Durocher, présidente du planning familial, au micro de Valérie Cohen. L'avortement, c'est aussi un sujet politique. L'atelier politique, c'est tout de suite avec Frédéric Rivière sur RFI.